Radio Okapi.
Madame, Monsieur, bonjour. Rapport de Human Rights Watch sur les disparitions forcées à Kinshasa. Le gouvernement de la RDC rejette les allégations selon lesquelles des arrestations ou détentions effectuées par les forces de sécurité ou le Conseil national de cyberdéfense seraient motivées par des considérations politiques ou arbitraires. L'essentiel de cette réaction dans ce journal. Dans cette audition aussi, cet appel à l'aide de plus d'un millier d'habitants des villages Bayoulé et d'Aquacentre dans le Bas-Zouélé. Ils ont tout perdu depuis l'incendie qui a ravagé leurs habitations en mercredi. Ils dorment dehors et leurs enfants ne savent plus aller à l'école. Notre invité est Kos Kenemo, médecin-chef de la zone de santé de Mwenga dans le sud Kivu. Avec lui, nous ferons le point sur l'épidémie de choléra qui a été déclarée dans la zone. Bienvenue à cette édition du journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo donne sa position suite au rapport publié mercredi par l'ONG Human Rights Watch, document dans lequel l'ONG dénonce des disparitions forcées survenues à Kinshasa et impliquant certains services de sécurité, notamment le Conseil national de cyberdéfense. Dans ce rapport, Human Rights Watch parle notamment de 17 cas documentés depuis mars 2025. Que dit le gouvernement à ce sujet, Richard Junior Kamunga?
Dans un communiqué publié ce vendredi par le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaye précise que la publication de ce rapport appelle une mise en perspective rigoureuse des faits ainsi que des clarifications d'ordre juridique, factuel et institutionnel. Les éléments portés à la connaissance des autorités indiquent que plusieurs personnes mentionnées dans ce rapport ont été identifiées. Certaines ont été libérées, tandis que d'autres ont été présentées devant les juridictions compétentes conformément aux procédures prévues par la législation nationale. Par ailleurs, des visites ont été autorisées au profit des familles ainsi qu'à des représentants de Human Rights Watch. Dans ces conditions, les circonstances évoquées dans le rapport appellent une appréciation juridique prudente quant à la qualification retenue. Il convient en outre de rappeler que les mesures prises par les services compétents interviennent dans le cadre d'enquêtes légalement ouvertes et conduites conformément aux lois de la République, dans un contexte sécurité particulièrement sensible. Le gouvernement rejette en conséquence les allégations selon lesquelles les arrestations ou détentions effectuées par les forces de sécurité, y compris celles relevant du Conseil national de cyberdéfense, seraient motivées par des considérations politiques ou arbitraires.
Dans la province du Bas-Zouélé, parlant de cet appel à l'aide, plus de 1000 personnes sont sans abri et passent désormais la nuit à la Belle Étoile au village de Bayoulé et d'Akwa à Centre, situé à plusieurs dizaines de kilomètres d'Ango. Selon la société civile locale, un incendie survenu mercredi dernier a ravagé plus de 200 maisons et réduit en cendres tous les biens des habitants. Les victimes de ces sinistres, dont l'origine reste encore inconnue, lancent un appel à l'assistance du gouvernement et des organisations humanitaires. Nous faisons le point avec Isaac Clément.
La situation humanitaire est préoccupante dans les localités de Bayoulé et d'Akwa, situées respectivement à 55 et 30 km d'Ango, dans la province du Bas-Zouélé. Environ un millier de personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri après l'incendie qui a consumé plus de 200 habitations mercredi dernier, déclare la société civile. Le drame s'est produit alors que la plupart des parents étaient au champ et que les élèves se trouvaient à l'école, ajoute la même source. Le bilan matériel est très lourd, meubles, vêtements, bien des valeurs et même les provisions alimentaires ont été calcinées par les flammes. Dépourvus de tout moyen de subsistance, les sinistrés lancent un appel urgent à l'aide du gouvernement et des organisations humanitaires dans cette zone enclavée où les conditions de vie étaient déjà difficiles. Conséquence directe, plusieurs élèves ayant tout perdu ne fréquentent plus l'école. Les enfants, les nourrissons, les personnes du troisième âge ainsi que les femmes enceintes sont particulièrement exposées aux maladies faute d'abri et de vêtements pour se protéger contre les intempéries. Pour le moment, les familles épargnées par ces drames, elles-mêmes vulnérables, tentent d'aider les sinistrés, mais leur assistance restait très limitée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous sommes au Nord Kivu. Dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans le Grand Nord, les autorités provinciales misent sur le renforcement de la gouvernance locale comme réponse structurelle aux défis sécuritaires. À Béni, une centaine de cadres de base, chefs du quartier, bourgmestres, administrateurs du territoire et responsables des services de sécurité ont participé à une session de renforcement des capacités axée sur la gouvernance participative. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de rapprocher l'autorité de l'État des populations, aussi de renforcer la coordination coordination à la base pour mieux prévenir les violences. Que retenir de cette rencontre, Marc Marofimbo?
La rencontre organisée jeudi autour du gouverneur du Nord Kivu a porté sur trois thématiques majeures: la sécurité, la gestion de la population et l'assainissement de l'environnement. Pour les autorités, il s'agit de consolider l'action de l'État en outillant davantage les responsables locaux. Parmi les recommandations formulées figurent les recensements réguliers de la population, l'identification des maisons de tolérance et la localisation des lieux pouvant servir de cachettes aux personnes inciviques, des mesures qui visent à améliorer la traçabilité et la prévention à la base. Josué Kapisa, chef du quartier Nzuma, participant.
Il a insisté à ce que, au niveau de la base, nous fassions les recensements réguliers.
Pour le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Somokakule, la restauration de l'autorité de l'État passe par la compétence et l'éthique dans la gestion publique.
La compétence, c'est le mot-clé. La compétence, c'est aussi l'éthique. Déjà, si vous respectez le code d'éthique qui nous lie tous, vous êtes déjà à mi-chemin sur la route de la compétence.
Afin, les services de sécurité, police et renseignement ont été appelés à renforcer leur collaboration avec les cadres de base et les communautés locales afin de consolider les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans les entités urbaines et territoriales du Grand Nord. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Le ministère de l'Environnement a réceptionné hier vendredi à Kinshasa 82 tracteurs agricoles et leurs équipements. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest. Cette activité marque une étape importante sur le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs engagés dans la restauration des paysages, le développement des chaînes de valeur agro-forestières et l'amélioration durable des moyens de subsistance des communautés locales. Nancy Atambo pour les détails.
Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat et l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, UCPIF, a réceptionné des tracteurs acquis et livrés par l'UNOPS dans le cadre d'un accord de livraison de produits. La secrétaire générale Pascaline Mbangu Kikumbi a salué une avancée importante pour la mise en œuvre du projet.
Le projet a ciblé 7 provinces où les savanes dominent que les forêts. C'est-à-dire, il y a le Congo central, il y a le Kwilu, le Kasai central, Kasai oriental, ainsi que la Lomami. Ces 7 provinces-là, ce sont plus des savanes que des forêts. Alors, ces tracteurs vont résoudre des problèmes pour la restauration des savanes. C'est-à-dire, ils vont donner aux agriculteurs qui vont en même temps commencer à planter les arbres, les palmiers, les arbres et les caféiers. Avec ça, on va restaurer les savanes. C'est-à-dire, nous souhaitons que les savanes redeviennent les forêts suite à la déforestation.
De son côté, la directrice de l'UNOPS, Mona Jawari, a souligné l'importance de cet appui logistique pour les acteurs locaux.
On a été contractés pour mener de bout à bout cette acquisition. Étant une agence opérationnelle qui appuie le système des Nations Unies et les gouvernements dans tout ce qui est gestion de projets et mise en œuvre des projets, on a été mandaté pour ça. Ces équipements ont été commandés suite à une procédure internationale. C'est des équipements qui sont les meilleurs.
La Banque mondiale, partenaire financier, par la voix du chargé du portefeuille climat, Patrice Awadogo, a réaffirmé son engagement aux côtés du gouvernement congolais.
La Banque mondiale œuvre auprès du gouvernement de la RDC pour le maintien de sa couverture végétale, particulièrement le maintien de sa couverture forestière, parce que nous savons que la RDC dispose du deuxième poumon le plus grand au monde, donc la deuxième forêt tropicale au monde, qui est vraiment importante et qui a besoin d'avoir de la valeur ajoutée, aussi bien pour le peuple congolais que pour toute l'humanité.
Ces tracteurs seront progressivement déployés dans plusieurs provinces pour soutenir les activités des terrains et renforcer la mise en œuvre du programme Piforest.
Lutte contre la pollution de plastique à Goma. L'organisation appuie aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, demande aux maires, ainsi qu'aux filles, aux jeunes filles, de limiter leur dépendance au plastique pour protéger leur vie. Pour cette organisation, ce sont elles qui, au quotidien, subissent les impacts de cette pollution. De la cuisine aux habitudes de consommation, en passant par leur hygiène, les femmes sont appelées à adopter des gestes écologiques simples mais salvateurs. Le point avec Rosalie Zawadi.
Malgré les multiples sensibilisations sur les dangers liés au plastique dans nos communautés, on n'arrive pas à adopter les bonnes habitudes, regrette Faustin Yebouné, directeur de l'organisation AICED. Pour lui, rien ne peut justifier cette absence d'action face aux dangers qui représentent les plastiques qui a envahi notre quotidien.
Quand la vie est menacée, ça devient une question d'ordre moral. Par exemple, vous dites que cet enfant, les gobelets qu'il utilise contiennent du poison. Vous allez dire non, il faut d'abord amener notre gobelet fait des substitutions et laisser d'abord l'enfant. Non, là, ça devient une question d'ordre moral, de responsabilité. Et là, on agit vite. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange sur les plastiques, on boit sur les plastiques, on donne naissance aux enfants sur les plastiques. Et lorsque c'est la nourriture, on met, comme on l'a dit, la nourriture chaude dans les récipients en plastique, les emballages en plastique. Tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué.
C'est référent au thème de la journée des droits des femmes cette année qui appelle à l'action. Monsieur Nibone invite les femmes à agir pour leur santé car elles sont les plus touchées par la pollution plastique de par leur anatomie et leurs habitudes quotidiennes. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
À Kisangani, la spoliation du cimetière de Kamba-Kamba dans la commune de Kabondo a franchi les seuils du tolérable. Des maisons, des terrasses et même des boîtes de nuit sont érigées sur des tombes. La synergie des avocats pour le développement durable vient de faire cette dénonciation auprès du procureur général près la cour d'appel de Kisangani. Jacques Mokonkole explique ce qu'il en est.
Face à ce qu'elle qualifie de profanation à ciel ouvert, la synergie des avocats pour le développement durable passe à l'offensive. Dans une correspondance adressée récemment au procureur général près la cour d'appel de la Tchopo, l'ONG dénonce un réseau mafieux bien établi. Selon ce document, le mal est profond. Malgré les alertes passées, les pelleteuses n'ont pas reculé. Pire, l'organisation pointe du doigt des complicités internes au sein de l'administration foncière, de la municipalité et même des services de sécurité et de renseignement. Aujourd'hui, les avocats exigent une enquête minutieuse pour démanteler ce réseau. Leurs recommandations sont fermes. Annulation des titres fonciers illégaux, déguerpissement immédiat des occupants et surtout que l'État prenne ses responsabilités pour sécuriser les lieux de repos éternels. En attendant, à Kamba-Kamba, le repos des morts est troublé par le bruit des chantiers. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et si en RDC, la gestion des 0,3% du chiffre d'affaires du secteur minier destiné au développement des communautés locales fait l'objet d'un examen approfondi, un atelier s'est ouvert hier à Kinshasa pour dresser l'état des lieux du fonctionnement et des réalisations des organismes chargés de gérer ces fonds, communément appelés dot de la première et de la deuxième vague. La rencontre est organisée par le comité de supervision, d'orientation, de suivi et de contrôle de ce mécanisme sous la conduite de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Mazaïba, et du ministre des Mines, Louis Watoum. Les travaux prévus pendant 3 jours se clôturent lundi et visent à améliorer le fonctionnement de ces structures. Jean-Marc Matoua qui nous propose un condensé du premier jour.
Dans son intervention, le ministre des Mines, Louis Watoum, a encouragé le bon déroulement des travaux. Il a estimé que cet atelier constitue une occasion importante pour les acteurs concernés de prendre en main la gestion de ces ressources afin de contribuer au développement du pays.
C'est une occasion unique que nous avons ici de prendre le destin de nos populations entre nos mains et développer notre pays. Ici, les moyens sont là. La balle est dans notre camp.
De son côté, la ministre d'État, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la mise en œuvre des conclusions issues de cet atelier ainsi que celles des rencontres à venir.
En ma qualité de coprésidente du comité de supervision, je tiens à vous réaffirmer mon engagement, notre engagement avec mon collègue, engagement total à vous accompagner dans la mise en œuvre des conclusions, non seulement de cet atelier, mais de tout ce qui va s'en suivre.
Pour sa part, Maître Alice Miri Mokabeti, administrateur directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux, se réjouit de l'ouverture de ses assises. Selon elle, cette initiative traduit la volonté constante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de veiller à ce que les ressources issues du secteur minier contribuent efficacement au développement des communautés locales.
Notez qu'à ce jour, les organismes spécialisés sont installés dans 5 provinces, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Tuélé, le Kassai-Oriental et le Nord-Kivu, bien que seules les 3 premières provinces aient enregistré des résultats significatifs. Et ici au pays, la liste des prisons en surpopulation ne cesse de s'allonger. Celle des Lébo dans la province du Kassai n'est pas en reste ces derniers temps. D'après des sources locales, cette situation est notamment liée au manque de juges au tribunal de paix de ce territoire. Conséquence, de nombreux prévenus ne sont pas jugés, y compris certains arrêtés pour des faits bénins. La société civile locale plaide pour l'affectation urgente des magistrats afin de permettre à des centaines de prévenus détenus dans cette maison carcérale d'être fixés sur leur sort. André Katinde Ngalamulumi nous décrit la situation.
Construite pour accueillir 100 personnes, la prison d'Ilebo héberge actuellement 128 détenus. Parmi eux, environ 50% sont des prévenus. C'est ce qu'indique Emery Mutombo Kabamba, directeur de cette maison carcérale. Au-delà de cette surpopulation, la prison d'Ilebo se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les détenus y vivent dans des conditions difficiles. Selon les directeurs, cela fait déjà 5 mois qu'ils ne reçoivent plus des rations alimentaires. À cela s'ajoutent les manques de soins médicaux et d'autres besoins essentiels. Face à cette situation alarmante, le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise à Ilebo demande aux autorités judiciaires l'envoi de juges afin que le prévenu soit rapidement jugé, ce qui pourrait aussi améliorer les conditions de détention des prisonniers. Nos tentatives pour joindre les autorités judiciaires de la province du Kasaï sont restées sans succès. Kananga, André Katendengalamoulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des centaines de personnes sont descendues hier vendredi dans les rues du Cap en Afrique du Sud en signe de solidarité avec l'Iran. Hier toujours au Nigeria, des dizaines de musulmans chiites pro-iraniens ont manifesté à Abuja et scandé des slogans anti-israéliens et anti-américains tout en exprimant leur solidarité avec les Palestiniens.
L'invité.
Il s'agit de Kos Kenemo, médecin-chef de la zone de santé de Mwengar dans la province du Sud Kivu. Il parle de l'épidémie de choléra déclarée dans la zone depuis la 9e semaine épidémiologique de l'année en cours. Docteur Kos Kenemo s'entretient avec Jean Kassami.
Docteur Kos Kenemo Djunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La zone de santé de Mwengar, l'une des 34 zones que compte la province du Sud Kivu, enregistre aujourd'hui des cas de l'épidémie de choléra. Vous confirmez cela?
Nous tenons à vous signaler que l'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga à la 9e semaine épidémiologique de cette année par l'administrateur du territoire de Mwenga. Et cela, c'était après la confirmation biologique de 5 échantillons sur les 8 prélevés. La zone a déjà enregistré à ce jour 28 cas, dont 5 décès. Répartis comme suit, 3 dans la communauté et 2 dans les établissements de soins de santé. Les cas ont été notifiés dans 3 aires de santé. Il s'agit de l'aire de santé d'Iganda, aire de santé de Tuseswa et dans l'aire de santé de Kalole.
Comment se fait la prise en charge médicale de malades dans cette contrée où sévit l'insécurité, mais aussi où il n'y a pas d'infrastructure routière pouvant faciliter la riposte contre l'épidémie?
Disons que la zone de santé a déjà bénéficié par rapport aux appuis, d'un appui de la DPS Sud Kivu. Cet appui était constitué de 150 litres de Ranger lactate, de trousses de perfusion et chlore. Malgré l'appui de la DPS en intrant, la zone n'a pas de CTC pour une bonne prise en charge des cas.
Quels sont les facteurs qui favorisent cette explosion du choléra dans la zone de santé de Mwenga?
La couverture de la zone de santé en eau potable est trop faible. Toutefois, les mesures préventives sont déjà mises en place par l'équipe cadre de la zone de santé. Il s'agit notamment de lavage des mains, la chloration d'eau, l'utilisation de latrines hygiéniques et assainissement environnemental. Entre autres, éviter de manger les aliments froids, non cuits, tout ça, et les fruits non lavés, etc.
Y a-t-il d'autres défis auxquels la zone de santé de Mwenga est confrontée?
Bon, il y a un autre défi qui jusque-là n'a pas encore trouvé de réponse. Souffrez que je puisse vous dire que la zone reste encore orpheline. C'est l'une des zones orphelines de 34 zones de santé du Sud Kivu. Et nous pensons que si on a vraiment l'appui d'autres partenaires, nous finirons par mettre fin à cette épidémie.
Docteur Kos Kenemo Djunga, merci.
Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette épidémie.
Dr Kosso Kenemo, médecin chef de la zone de santé de Mwenga dans la province du Sud-Kivu. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'attention que vous avez accordée. Il a été préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dieudonné Nyangasa, avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Pour la suite de points d'actualité de ce jour, vous serez avec Jean-Désiré Kanyama. Bon après-midi.